marche. Alors, bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup de l'invitation de la part de Société Gatineau-Monde. Je pense que ce sont des belles occasions de discuter de sujets que je juge personnellement très importants. Et à la fin de la soirée, vous allez être convaincus aussi de la même chose. Alors, juste d'entrée de jeu, je voudrais vous présenter un peu plus l'organisation d'où je viens. Alors, l'Union des consommateurs, on est un regroupement communautaire national dont la mission est de promouvoir et défendre les droits des consommateurs, particulièrement ceux à modestes et faibles revenus. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait beaucoup de recherches, d'actions et de représentations sur tous les aspects qui touchent le budget et l'endettement. Donc, monsieur le disait, les sujets donc, que moi je couvre à titre d'analyste, c'est les politiques sociales et fiscales, donc tous les projets de loi que le gouvernement va passer en matière de lutte à la pauvreté ou en matière budgétaire, en matière fiscale, qui vont venir impacter votre budget, le budget des gens. Ça fait partie de ce que nous, on étudie à l'Union des consommateurs. Même chose dans le dossier santé, le coût des médicaments, c'est le gros dossier sur lequel on travaille. On va le voir un peu plus tard, mais on paye nos médicaments extrêmement cher au Québec et au Canada. Il y aurait vraiment de quoi faire là-dessus pour récupérer plus d'argent pour les finances publiques et dans nos propres poches. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Les membres d'Union des consommateurs, ce sont les ACEF. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce sont les plus vieux groupes communautaires au Québec. Les ACEF, Associations coopératives d'économie familiale, leur nom au long traduit un peu l'âge vénérable qu'elles ont. Elles sont implantées un peu partout au Québec et leur travail est de rencontrer les gens sur une base individuelle, ce que nous, on ne fait pas Union des consommateurs. Nous, on traite les problèmes plutôt au niveau collectif, donc avec les gouvernements et les partis responsables. Les ACEF, nos membres, nous relaient les problèmes qu'eux voient sur le terrain quand ils rencontrent des gens pour des consultations budgétaires, pour des ateliers sur la planification à la retraite. Ils font des ateliers pour l'accession à la propriété, pour les jeunes qui partent en appartement. Donc, tout plein de trucs en lien directement avec les gens, leur budget, la lutte contre l'endettement, la consommation responsable, etc. Donc, c'est de là que nous vient le jus sur qu'est-ce qui a un impact sur le quotidien des gens au niveau budgétaire et endettement. Et c'est là-dessus que nous, c'est les ballons que nous, on prend après pour les mener au niveau national. Donc, tout ce dont on va parler ce soir, c'est comme ça que c'est connecté à la réalité pour nous. Je vous parle aussi ce soir au nom de la coalition Main Rouge. Vous en avez peut-être aussi entendu parler, coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, qui est active depuis 2009, qui est née dans la foulée de l'annonce du gouvernement libéral d'intensifier le recours à la tarification des services publics, de couper dans les services publics tous azimuts pour essayer de lutter absolument contre les déficits et la dette. Et à ce moment-là, il y a une centaine de groupes communautaires, syndicaux, étudiants et féministes qui se sont réunis pour essayer de contrer les velléités du gouvernement. Et depuis 2009, nous sommes très actifs sur la scène provinciale pour essayer de faire échec aux politiques du gouvernement en matière d'austérité, notamment. Les revendications qu'on porte à la coalition Main Rouge, c'est le réinvestissement massif dans les services publics. On demande aussi un réinvestissement dans les programmes sociaux et un réinvestissement ou un investissement dans le financement des groupes communautaires qui sont comme le pilier un des piliers au Québec en ce qui concerne le filet social. À Union des consommateurs, on s'est engagé dès le début dans cette démarche-là, entre autres en voulant accompagner notre discours de dénonciation d'un discours de proposition. On trouvait ça pas suffisant de juste dénoncer les mesures du gouvernement. Ça nous semblait plus porteur d'arriver avec des propositions pour arriver sur un terrain où on pouvait dire non, au lieu de faire ça, vous devriez faire ça. Et c'est dans cette optique-là qu'on a travaillé très tôt à développer les solutions fiscales dont on va parler ce soir. Ça nous permettait d'ouvrir un nouveau champ de bataille, d'avoir un discours plus porteur, plus plein d'espoir, alors que les gens en avaient marre de se faire dire « Non, il ne faut pas faire ci. Non, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Non, mais c'est ça. » Les gens ils se retrouvent un peu entre deux discours entre lesquels ça peut être difficile de se brancher, alors que là, avec nos solutions fiscales, ça nous permet d'ancrer ça dans un autre terrain, celui de propositions concrètes et réalistes pour avoir le choix de faire autrement. Ce qui revient toujours dans notre discours à la coalition, c'est « Nous avons les moyens de faire autrement. » Et c'est ce dont on va parler ce soir. Avant de poursuivre sur les solutions fiscales, je voulais vous montrer un peu l'espèce de cercle vicieux auquel on est confronté actuellement au Québec. On a un petit document que la coalition a préparé. Attendez un petit instant. Non, avant ça, je voulais vous parler un peu plus des solutions fiscales. Alors, depuis 2010, quand on a travaillé sur les solutions fiscales, c'était un comité de la coalition qui s'est formé, donc le comité des solutions fiscales qui les a développées. Et évidemment, dans nos têtes, on n'est ni fiscaliste ni économiste, ce n'est pas si évident d'arriver avec des solutions fiscales. Donc, on s'est allié évidemment à des spécialistes en la matière économiste, fiscaliste, comptable, pour essayer d'appuyer solidement nos revendications et surtout d'arriver à estimer les économies qui sont possibles avec les mesures qu'on propose. On est arrivé à 20 mesures qui totalisent un total de 10 milliards de dollars. Donc, c'est pour ça que vous voyez le 10 milliards de solutions. Annuellement, avec les 20 mesures qu'on propose, le gouvernement pourrait aller chercher 20 milliards de dollars. C'est énorme. Évidemment, on ne lui demande pas de toutes les mettre en place. Ce n'est pas une plateforme qu'on propose, c'est une liste. Donc, il pourrait choisir, le gouvernement pourrait en prendre une ou plusieurs, ou peu importe, mais c'est pour vous montrer l'ampleur des montants dont on parle. Ce n'est pas des petites économies. Depuis 2010, inlassablement, on présente nos solutions à chaque consultation budgétaire du gouvernement, à chaque rencontre avec des députés, quand il y a des commissions parlementaires sur divers sujets liés à la lutte à la pauvreté ou à la fiscalité. On remet le document avec le tableau et on essaie de faire en sorte que les élus en entendent parler encore et encore. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on a très peu d'écho là-dessus. La seule fois où on a réussi vraiment à avoir une discussion un peu constructive avec des élus ministériels, le ministre des Finances, c'était le gouvernement du Parti québécois. On avait rencontré l'équipe de Nicolas Marceau qui nous avait dit que les solutions avaient été étudiées. Il y avait un document Sodgro au ministère des Finances qui en avait fait l'analyse et qu'ils étaient favorables aux solutions 1 à 9. C'est le plus loin qu'on a pu se rendre dans l'appréciation. Avec le gouvernement libéral, c'est silence radio. Pour eux, c'est sûr, ça ne leur parle pas beaucoup. Mais nous, on les aime. On en parle beaucoup. On trouve qu'elles sont porteuses d'espoir, elles sont rassembleuses, elles sont réalistes et concrètes, nos solutions fiscales. Et comme je vous disais, elles nous permettent d'occuper le terrain du gouvernement, de contrecarrer son discours sur la nécessité de réduire les dépenses publiques au nom de la lutte à des déficits qui sont, selon nous, artificiellement créés. Et c'est là que je vais vous montrer mon petit cercle vicieux. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien lire. Arrivez-vous à voir un peu? Je vais le lire avec vous de toute façon. Alors, le contexte dans lequel on se trouve actuellement au Québec, c'est que le gouvernement, en prétextant un manque d'argent qu'il a lui-même créé, il restreint l'accès à des services publics en augmentant les tarifs exigés à la population. Et pour économiser davantage dans ce contexte-là, le gouvernement coupe dans le financement des services publics. Ce sous-financement-là des services publics a pour conséquence de rendre les services publics, évidemment, moins efficaces. Numéro 4, alors le gouvernement peut ainsi se justifier de privatiser des services qu'il a lui-même rendus moins performants. Et là, en ce qu'on voit numéro 5, l'État se déresponsabilise de ses obligations sociales. Il tente d'utiliser les organismes communautaires comme un palliatif aux services sociaux, affaiblis par les mesures d'austérité. Et 6, par ces politiques, des individus, des groupes et des collectivités voient leur pouvoir économique et politique être affaibli, ce qui limite leur capacité à s'opposer à ces politiques, et ce qui favorise au final une insidieuse transformation du rôle de l'État. C'est vraiment le contexte dans lequel on œuvre à l'heure actuelle. Dans les groupes communautaires, vous le savez, vous en avez sûrement entendu parler, on fait face à un sous-financement qui est assez difficile à vivre. On a des coupures d'heures, on a des coupures de postes, ce qui réellement affaiblit notre capacité à faire le travail de défense collective des droits auxquels on est habitué ou que nous confie la mission de nos organismes. Et sous couvert de l'épouvantail de crise des finances publiques, bien là, on a le droit à des rondes de coupures, de compression, de hausse des tarifs. On le constate chaque jour dans nos groupes. Et tout ça pourquoi? Bien pour que le gouvernement Couillard nous annonce un surplus budgétaire de 4,5 milliards de dollars en 2017. Ça, c'était avant le versement au Fonds des générations. Et ça, c'est un des surplus les plus importants de l'histoire du Québec, un des surplus budgétaires les plus importants. Et nous, de notre point de vue, on considère qu'il a été réalisé au détriment de la majorité de la population et au prix de l'affaiblissement du filet social qu'on avait pourtant fièrement construit durant les années 60, avec des résultats très éclatants en ce qui concerne la santé et l'éducation de la population québécoise, notamment. Alors nous, on refuse ces choix, on dit qu'on doit faire autrement, et la bonne nouvelle, c'est que nous en avons les moyens. Avec nos solutions fiscales. Alors, les objectifs d'un système fiscal, prélever les ressources nécessaires au financement des services publics, favoriser le développement économique et la création d'emplois, améliorer l'équité et la répartition de la richesse. Alors, nos solutions fiscales s'inscrivent là-dedans. Alors ça, c'est ce sur quoi tout le monde s'entend, peu importe l'idéologie ou la façon de voir la fiscalité. Là où on commence à diverger avec les gouvernements ou les tenants des politiques plus néolibérales, c'est sur le concept de justice sociale. Quand il est question de savoir comment est-ce qu'on répartit les charges et les avantages de la vie sociale, c'est là qu'on voit qu'il y a des conceptions différentes qui sont en jeu et des conséquences dans notre quotidien. Alors, tout le monde va se targuer de vouloir et de rechercher la justice sociale, mais pour les tenants du néolibéralisme, on va aller plus du côté des mécanismes de marché, réduire au minimum les obstacles à l'investissement privé pour stimuler la croissance économique. Et là, on dit que ça va permettre de créer la richesse, ce qui va améliorer le bien-être de l'ensemble de la société. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie du ruissellement. Créer la richesse, puis là, tout d'un coup, ça va retomber sur tout le monde. Alors que nous, quand on parle de justice sociale, on ne priorise pas seulement la croissance économique, mais on favorise d'abord et avant tout une meilleure répartition de la richesse en offrant des services publics et des programmes sociaux qui permettent d'améliorer la qualité de vie de tous. Alors, dans cette perspective, selon notre vision de la justice sociale, c'est que le rôle de l'État doit être de redistribuer la richesse par une fiscalité progressive. On va revenir sur ce concept juste après. Et financer adéquatement les programmes sociaux. Donc, maintenir un filet social qui soit fort. Les trois piliers, selon nous, d'un filet social fort. Alors, par filet social, on veut dire l'ensemble des mesures qui sont mises en place par la société pour assurer à tous de satisfaire leurs besoins de base et d'avoir des bonnes conditions de vie. Alors, les services publics, les programmes sociaux et les groupes communautaires. On a une possibilité d'avoir trois sources de revenus pour assurer ce financement-là. La fiscalité, les revenus des sociétés d'État et les tarifs qui sont acquittés par les utilisateurs des services publics. Quand on regarde la fiscalité, et c'est là que tout doucement je m'en viens vers mes solutions fiscales, quand on regarde la fiscalité, on a aussi deux choix, puis on voit qu'ils sont très différents. Quand on regarde les taxes, les impôts et les tarifs, on voit qu'ils n'affectent pas les gens de la même façon. D'un côté, il y a les taxes à la consommation, puis la tarification et la privatisation, qui sont des mesures dites régressives. Et tu as l'impôt sur le revenu, qui est une mesure, c'est une fiscalité qui est dite progressive. Fiscalité progressive, plus les revenus sont élevés, plus grande est la part d'impôts à payer. Fiscalité régressive, c'est le contraire, basé sur les taxes, tarifications et impositions égales pour tout le monde, sans égard sur le revenu. Ce que ça veut dire dans la réalité, si on prend un exemple d'une taxe de TPS qui serait à 5 %, un revenu de 10 000 $ ou un revenu de 20 000 $, une taxe de 5 % n'aura pas le même effet sur l'ensemble des revenus. C'est appliquer la même taxe sur un revenu. Donc, pour une personne qui gagne 40 000 ou une personne qui gagne 300 000, on voit l'effet tout de suite. Dernier petit élément de mise en contexte. Je voulais vous montrer un peu ici les revenus du gouvernement du Québec. 29 % l'impôt sur le revenu des particuliers, 7 % les cotisations pour les services de santé, 7 % l'impôt des sociétés, donc des entreprises, l'impôt foncier scolaire 2 % taxes à la consommation 18 % droits et permis 4 % revenus divers 9 % et revenus des entreprises du gouvernement 5 % transferts du gouvernement fédéral 19 %. On se souvient que quand il y a eu le rapport Godbout, M. Godbout proposait dans ce rapport d'inverser les proportions entre les taxes et les impôts. Et nous, on est allés en commission parlementaire pour démontrer le fait que, malgré ses prétentions, son analyse était incorrecte parce qu'ils avaient basé toute l'analyse économique de la pertinence de faire ça, d'imposer plus de taxes, et on a vu que c'était régressif. Donc, plus de taxes à la consommation de la population, moins d'impôts sur le revenu. Lui faisait valoir dans son rapport final que c'était très avantageux pour la société, pour l'économie, pour la stimulation, pour la création d'emplois. Mais quand on allait lire les rapports qui sous-tendaient ça, ils avaient confié des petits bouts de rapports à des sous-traitants, donc à des chercheurs. Alors, en allant lire un des rapports, c'était clairement écrit en toutes lettres qu'il n'avait pas été analysé le coût social de ces mesures-là. et que c'était une analyse qui restait à faire. Donc, toute l'analyse du rapport Godbout est faite sur une pertinence économique, mais sans regarder le coût social sur la population. Et là, les chercheurs qui avaient fait ce petit bout d'analyse-là, que n'a pas repris le rapport final de Godbout, disaient qu'un impôt supporté principalement par les pauvres comporte un coût social élevé, on s'en doute, et que ce coût n'a pas été calculé avant de déclarer ce qu'il fallait pour le Québec. Que ce qu'il fallait pour le Québec, c'était moins d'impôts et plus de taxes et de tarifs. Donc, gardez ça en tête quand vous entendrez, parce que bientôt, le gouvernement va encore annoncer des baisses d'impôts. Ça semble être dans l'air de façon très sérieuse dans le prochain budget du gouvernement du Québec avant les élections. Mais ils vont vous dire que c'est très bon de baisser les impôts, mais il y a plusieurs éléments à garder en tête dans ce débat-là, entre autres le fait qu'on ne regarde jamais l'effet social de ça. Et on ne considère jamais non plus le fait que 40 % de la population au Québec n'a pas des moyens suffisants pour payer de l'impôt. Hein. Donc, ça veut dire que ces gens ne sont jamais touchés par des baisses d'impôts. Hein. Puis on s'entend que c'est ceux dont qui en auraient le plus besoin. Hein. Les dépenses, juste pour avoir un portrait global, on se doutait que c'est la santé et les services sociaux qui prend la plus grande partie des dépenses du Québec, 39 %, éducation et culture, 22 %, économie et environnement, 12 %, soutien aux personnes et aux familles, 10 %, gouverne et justice, 7 %, service de la dette, 10 %. Mise en contexte qui nous amène au clou du spectacle, le fameux tableau de nos solutions fiscales. Là, vous ne serez pas capable de le lire, j'imagine. Non, c'est pas... Mais c'est pour vous montrer que les 20 sont là. Je vais les regarder rapidement avec vous. Mais après avoir vu les quelques diapos d'introduction, on voit bien les dissensions idéologiques entre les mouvements sociaux de gauche, nos gouvernements qui sont certainement plus de droite, malgré ce qu'ils peuvent parfois prétendre. Et on a pu constater que ces prétentions idéologiques liées au néolibéralisme justifient les mesures d'austérité appliquées par le gouvernement du Québec et qu'on n'est pas face à une réalité immuable à laquelle on devrait se résigner, on est face à des conceptions idéologiques des finances publiques et qu'on a le choix de faire autrement. Quand on va bien prendre conscience de ce choix concret, réaliste, sérieux et crédible, on va pouvoir avoir tous les outils en main pour exiger de nos élus des changements, puis des vrais changements. Quand on regarde ça, c'est ça le changement qu'on a sous la main, c'est de leur dire pourquoi vous ne les faites pas, ces solutions fiscales-là, pourquoi vous ne les appliquez pas. Et ce qu'on a fait quand on a fait le travail, c'est qu'on est allé on a appliqué deux stratégies. On a fait une colonne qui était le... Laissez-moi, j'ai trouvé mon petit tableau. Une colonne qui permet de lister les revenus fiscaux supplémentaires. Donc, l'argent qu'on pourrait aller chercher par des modifications à notre système fiscal. Ça, c'est la première colonne de chiffres, de montants en millions de dollars que vous voyez. Et l'autre colonne, c'est les mesures de contrôle des dépenses. Là, on a voulu jouer le jeu des partis politiques qui n'arrêtent pas de dire « il faut couper ici, il faut couper là, il faut couper là ». On dit « parfait, nous aussi, on a des endroits où on veut couper, puis voici lesquels ». Puis vous vous doutez qu'ils sont diamétralement opposés parce qu'on touche ni à la santé, ni à l'éducation, on n'impose aucun tarif, on est vraiment dans autre chose. Fait que je vais passer rapidement à travers les mesures là-dessus, puis il y a quelques-unes sur lesquelles on va aller plus en détail. Alors, si on regarde les revenus fiscaux supplémentaires qu'on pourrait aller chercher, 5 milliards, un potentiel de 5 milliards et demi de dollars par année. Une de ces mesures-là, ce serait d'établir 11 paliers d'imposition pour aller chercher 1 milliard de plus. On va y revenir plus en détail, celle-là. Une autre des solutions, ce serait, avec le 745 millions, mesure 5, moduler les taxes à la consommation en fonction des biens achetés. Donc, aller sur des taxes pour des biens de luxe, exempter de taxes tous les biens essentiel, aller taxer certains biens de luxe ou faire des taxes dédiées comme on a déjà pour l'alcool, les cigarettes et autres, taxer peut-être les bouteilles d'eau en plastique ou autres. Donc là, les calculs qu'on a faits nous amenaient un potentiel de 745 millions. Mettre fin à l'incorporation des médecins. On en parle beaucoup depuis quelques mois dans l'actualité, mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchissait depuis longtemps, à quoi on réfléchissait depuis longtemps. Donc mettre fin à l'incorporation des médecins, un potentiel de 100 millions. Puis à chaque fois qu'on a mis des montants, on est allé vraiment de façon conservatrice. C'est la seule fois où je vais utiliser ce mot-là avec vous. Là, pour les montants, on est allé vraiment sur le plus bas pour être sûr de garder une crédibilité puis de ne pas aller mettre plus. Mais à chaque fois, ça a beaucoup de chances d'être des économies encore plus substantielles. Donc, mettre fin à la corporation des médecins, 100 millions. Autres revenus fiscaux, augmenter le taux provincial d'imposition des entreprises, le numéro 7, à 15 % alors qu'il est actuellement à 11,9. Ça permettrait d'aller chercher 1,2 milliard. Et là, on va y revenir, on y revient par après. Augmenter la contribution fiscale des institutions financières, notamment en rétablissant la taxe sur leur capital, 600 millions de dollars. Celle-là aussi, j'y reviens. La numéro 9, revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises. Et là, on en nomme trois en particulier, dont je vous passe le détail, mais ça, c'est 1,1 milliard de dollars de potentiel d'économie en revoyant certaines mesures fiscales qu'on destine aux entreprises. En plus, je me suis trompée de colonne parce que je suis rendue dans mes coupures de dépenses. Bon, je reviens à numéro 11 dans les revenus fiscaux. Augmenter les redevances sur les ressources naturelles. 410 millions. Et ça, le 410 millions, on parle seulement de l'industrie minière. Si on ajoute les forêts, l'eau, on augmente encore ce montant-là. Dans le numéro 12, lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, 740 millions. On y revient tout à l'heure. Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans l'attribution des contrats gouvernementaux. Là, on pense à la commission Charbonneau. C'est la commission Charbonneau qui nous a donné le montant. C'était 600 millions. C'était dans l'enquête, notamment, qu'ils avaient évalué à 600 millions les pertes pour le gouvernement. Et là, bien sûr, vous pourriez me dire, bien, c'est fini, la commission Charbonneau, c'est réglé. Mais là, ce qu'on fait valoir dans notre argumentaire qui est lié à ça, qui est disponible en ligne aussi, c'est qu'il y a encore tout le secteur de l'informatique, un jour, va nous péter au nez, où, semble-t-il, il y a beaucoup d'abus aussi. Donc, tous les contrats informatiques que le gouvernement sous-traite à l'heure actuelle, ça a l'air que c'est la prochaine commission Charbonneau. Donc, il y a probablement encore beaucoup d'argent à aller chercher dans la corruption et la mauvaise gestion des contrats gouvernementaux. Et dans le numéro 17, la dernière mesure qui est liée aux revenus fiscaux supplémentaires, c'est taxer le capital des fondations privées, 115 millions. On pourra y revenir un petit peu aussi plus tard. Et il y a d'autres mesures en bas, 18, 19, 20, c'est des mesures auxquelles on a... On pense qu'il y a un potentiel d'économie là, mais ça nous est très difficile d'aller mesurer précisément combien. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de chiffres. Par exemple, cesser de recourir au PPP dans la construction d'infrastructures publiques. On le voit avec le CHUM, le CUSUM à l'heure actuelle. Ça nous coûte très cher, mais c'est avec les moyens qu'on a, c'est difficile pour nous d'aller mettre un montant plus précis, même avec les experts dont on s'est entouré. Cesser de recourir aux cliniques médicales spécialisées. Les contacts qu'on a nous disent 30 à 40 d'économies envisageables, mais on n'a pas de montant rattaché encore non plus. Adopter une politique de rémunération maximale des cadres et dirigeants des institutions publiques et parapubliques et sociétés d'État comme Hydro-Québec, Loto-Québec, CSST et tout. Là aussi, il y aurait peut-être moyen d'aller rechercher des montants. Et la liste peut s'allonger beaucoup. Hein. Récemment, on parle de la légalisation de la marijuana. Il y a beaucoup de potentiel d'argent public à aller chercher là aussi pour financer adéquatement notre filet social. Et si on passe rapidement en revue aussi les mesures de contrôle des dépenses, comme ça, vous pourrez, dans les prochaines semaines, parler avec les gens pour dire « Oui, moi, je suis d'accord pour couper, mais voici où. » Il y a, entre autres, le numéro 2, abolir le crédit d'impôt sur les gains en capital des particuliers pour un potentiel de 739 millions. Et ça, c'est les chiffres du ministère du Revenu du Québec. Diminuer le plafond des REER de 24 000 à 12 000 $, ça, ce serait un potentiel de 300 millions de $ d'économie. Réduire les crédits d'impôt pour dividendes de 50 %, ça nous permettrait d'aller chercher 180 millions de $. Revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises, 1,1 milliard. Réduire les subventions aux entreprises, 500 millions. Cesser de recourir aux agences de placement privé, numéro 14, dans les institutions publiques de santé, 71 millions. Un gros morceau sur lequel on travaille beaucoup à l'Union des consommateurs, adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments, dont l'instauration d'un régime entièrement public d'assurance médicaments, 1 milliard. On va y revenir, celui-là. Utiliser le logiciel libre par l'ensemble de l'appareil gouvernemental, 266 millions. Donc là, ça vous donne une idée générale des mesures. Là-dedans, il y en a certaines que propose justement Morneau dans la réforme qu'il veut faire à l'heure actuelle au niveau fédéral. Donc, on est totalement connecté à la réalité avec nos mesures fiscales. Et on va en explorer quelques-unes plus particulièrement. Je ne vous ferai pas l'exposé total sur les 20, parce que je pense que ça sera un petit peu lourd. Et déjà, vous êtes courageux d'être ici un mardi, ce mercredi soir sur la fiscalité. Alors, si on regarde ensemble un peu plus particulièrement les 11 paliers d'imposition. Ça, c'est assez frappant parce que Notre argumentaire sur le sujet nous dit, en établissant 11 paliers d'imposition sur le revenu des particuliers, on irait chercher 1 milliard de plus pour les coffres de l'État et 94 % des contribuables paieraient moins d'impôts. Pas pire, hein? Hein? Oui? On est combien? C'est ça, je vais vous expliquer ça justement. Il y en a 4. Alors, actuellement au Québec, il y a seulement 4 paliers d'imposition. Alors qu'avant 88, il y en avait 16, ce qui permettait d'imposer beaucoup plus équitablement les différents revenus. Parce que vous savez comment ça fonctionne, l'impôt sur le revenu des particuliers, c'est que vous êtes imposé sur des tranches. Et là, on va aller voir ça plus en détail, ici. Vous avez pour 2016 et 2017 les tranches, donc les tranches de revenus imposables. Donc, il n'y a personne qui est imposé à 25,75% sur l'ensemble de son revenu. Ce qui est imposé à 25,75%, c'est seulement le revenu qui dépasse, donc la portion du revenu qui dépasse 103 000 $. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tout ce que vous gagnez en bas de 42 000 est imposé à 16%. Ce que vous gagnez entre 42 000 et 84 000 est imposé à 20%. Entre 84 et 103 à 24 et plus que 103 000. Donc, juste la portion qui dépasse 103 000 est à 25,75. Donc, quand les gens vous disent « Ah, ça n'a pas de sens, on est imposé à 25 % au Québec », non, on est imposé à 25 % sur ce qui dépasse 103 000. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand Québécois qui gagne plus que 103 000 parce qu'il y a 75 % de la population qui gagne moins de 50 000 $ au Québec. Donc, voici comment ça fonctionne à l'heure actuelle. La quatrième tranche de revenus est assez récente. Le 25,75, ça avait été mis en place par le gouvernement de Pauline Marois en 2014. Et vous vous souvenez, on avait entendu dans les journaux et dans les nouvelles pendant des semaines comment les gens souffraient d'anxiété fiscale à l'idée de ce quatrième palier d'imposition qui a été imposé. Je pense que les gens ont survécu depuis. J'ai entendu personne mort d'anxiété fiscale. Alors, tout ça, c'est tiré du document 10 milliards de solutions où on vient vraiment détailler chacune des mesures qu'on propose si jamais vous voulez aller le chercher. Il est en ligne sur le site de la coalition la coalition Main Rouge. Le site, c'est nonhausse.org. Alors, ce que je voulais vous expliquer plus en détail ici, c'est que quand on avait 16 paliers d'imposition en 88, ce qu'on remarque comme changement depuis ce temps-là, c'est qu'on est passé de 16 à 4 et que le premier palier d'imposition commence maintenant à 16 % alors qu'en 88, le premier était à 13 % Donc, ça veut dire que la première tranche de revenus des gens est imposée à 13 % Là, avec le temps, non seulement on a réduit les paliers d'imposition, mais on vient chercher plus d'argent sur la première tranche de revenus des gens. Donc, le 16 % qui est applicable pour les revenus entre 0 et 41 000 Et le dernier palier, lui, celui qui est appliqué pour les revenus les plus élevés, donc supérieurs à 100 000, est passé de 33 % en 88 à 25 % maintenant. En clair, ça veut dire que maintenant, la tranche de revenus la plus élevée est moins imposée qu'elle l'était en 88. On prenait 33 % de la dernière tranche de revenus en 88, on en prend 25 maintenant. Et les gens sont en anxiété fiscale. Donc, ce qu'on veut montrer par là, c'est que cette baisse des impôts pour les plus nantis, c'est un choix politique qui mène l'État à se priver de revenus importants et qui, évidemment, on revient au cercle vicieux que je vous ai exposé au début, affaiblit sa capacité de répondre adéquatement aux besoins de la population. Nos 11 paliers, et là, nous, on a fait un modèle avec 11 paliers, mais ça pourrait être 8, 9, 14. L'idée, c'est, on s'en fout dans le fond du nombre, c'est juste pour démontrer qu'on aurait moyen de faire autrement puis d'aller chercher des revenus substantiels si on le voulait bien. Et là, avec un fiscaliste et deux comptables, on a mis ça sur pied, on l'a calculé. Et ce que ça montre, c'est que justement, d'imposer les revenus comme ça, par tranche de revenus, plus petite, avec une progression plus lente des taux, ça permet d'aller chercher 1 milliard de plus, mais de réduire la facture d'impôt pour 94 % des contribuables. Ce qui veut dire, en gros, que les gens qui gagnent jusqu'à 70 000 $ par année auraient une baisse d'impôt, puis tous ceux en haut de 70 000 auraient une hausse d'impôt avec le modèle qu'on propose. En clair, c'est ce que ça veut dire. Dans les fiches qu'on a faites sur le sujet, ça, c'est des extraits des fiches aussi que vous pourrez aller chercher en ligne si jamais vous voulez en parler à votre famille. Il y a des fiches. On a fait des exemples d'applications avec différents types de revenus. Par exemple, un revenu imposable de 24 000 $ paie 3 840 $ d'impôts avec les 4 paliers actuels. Et si on calcule avec notre modèle de 11 paliers, paierait 3 600, donc une économie de 240. Puis, etc., jusqu'à 70 000. Là, on voit qu'il y a encore une économie de 156. Par contre, pour les revenus de 150 000, là, il y a une... là lui, sa facture d'impôt vient de gonfler, par exemple, de 4 000 $ par année. On regarde ça, on se dit « wow, cool ». Mais quand on voit le vent, l'ouragan de protestation qui souffle actuellement sur le ministre des Finances du Canada concernant les trois mesures fiscales qu'il veut instaurer pour boucher certaines échappatoires fiscales, et on peut se douter qu'on n'est pas prêt de voir ça instauré. En tout cas, il va falloir se lever de bonne heure puis en parler longtemps, ce qu'on fait depuis 2010 avec les résultats que je vous ai dit. Mais plus on va être de gens à le savoir, ben, propageons la bonne nouvelle. Et je voulais rappeler une dernière fois que les taux d'imposition ne s'appliquent pas sur l'ensemble des revenus, mais bien sur les différentes tranches. Donc, par exemple, si... Donc, vous pouvez faire l'exercice avec... il y a la ligne 99 de votre formulaire d'impôt, 299, que vous pouvez prendre, puis appliquer les paliers. Vous allez les trouver en ligne, puis ça vous permettra de faire l'exercice de savoir quelle serait votre facture d'impôt avec les nouvelles... ce que nous, on propose comme formule. Et là, on va se faire dire, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité, c'est utopique, c'est idéaliste, blablabla. Mais en fait, on est vraiment, vraiment dans une tendance mondiale à l'heure actuelle. Là, le FMI, on ne peut pas le taxer d'être très de gauche et pro-groupe communautaire et syndicaux. Et pourtant, depuis 2013 et même davantage, il multiplie les appels auprès des pays développés pour les inciter à aller taxer les plus riches. Alors, il leur dit, vous avez fait un effort pour réduire vos dépenses, il est temps d'augmenter les revenus, précise l'organisation. Et là, justement, le gouvernement du Canada aurait toute la marge de manœuvre, et les gouvernements provinciaux et fédéraux auraient la marge de manœuvre voulue pour augmenter les impôts des plus riches. On pourrait même le relever de plus de 15 points de pourcentage sans que ça risque trop de les inciter à travailler moins ou à chercher des moyens de se cacher du fisc. Ça, c'était en 2013. La semaine passée, nouveau rapport du FMI, les économistes nous redisent la même chose. On devrait augmenter les impôts des plus riches. Ils viennent nous dire que, justement, la plupart des pays développés sont le théâtre d'un creusement notable des inégalités de revenus, principalement causées par l'augmentation du revenu de marché du 1% les plus riches. Ils nous disent, OK, une bonne partie de ce phénomène-là, pourquoi les 1% des plus riches s'enrichissent, c'est lié à des phénomènes mondiaux comme les changements technologiques, la mondialisation, les récessions. Mais les gouvernements ont aussi eu tendance ces dernières années à affaiblir leurs mécanismes de répartition de la richesse, en abaissant notamment les impôts des contribuables les plus riches, avec l'idée peut-être que cela pourrait stimuler la croissance économique. Mais les experts du FMI concluent que les pays développés auraient tout intérêt à défaire au moins une partie de leur baisse d'impôts des dernières années. Mais ce que nous, on constate tout le temps sur le terrain, le FMI admet que de telles réformes peuvent être difficiles à passer parce que les mieux nantis tendent à avoir plus d'influence politique. Et là, on le voit parfaitement bien avec la réforme Morneau actuellement, avec tous les lobbies qui se dressent contre lui sur le sujet. Mais c'est exactement ce qu'essaye de faire le monsieur Morneau, d'aller chercher des revenus, à instaurer un peu plus d'équité fiscale. Une autre de nos mesures, c'était c'est d'augmenter l'impôt des banques et des autres institutions financières, notamment en rétablissant la taxe sur le capital. Ça nous permettrait d'aller chercher 600 millions de dollars de plus. Puis là, on parle encore d'économie annuelle. Hein. 600 millions, c'est l'estimation pour la gratuité scolaire, pour vous donner un exemple de ce qu'on pourrait aller chercher. Alors, comment est-ce qu'on justifie cette demande de notre part? Il apparaît que les banques arrivent trop souvent à éviter de payer de l'impôt en tirant avantage des différences de réglementation, notamment dans les paradis fiscaux. Rétablir la taxe sur le capital permettrait de leur faire payer une plus juste part. Mais qu'est-ce donc que cette taxe sur le capital? Elle a été introduite en 1947 et abolie par le gouvernement libéral de Jean Charest. Elle imposait les entreprises sur leurs immobilisations, leur capital action, leur dette à long terme et leurs réserves et surplus. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Il disait que le retrait de la taxe sur le capital allait encourager les investissements, ce qui allait permettre d'augmenter la productivité, d'aider l'économie, créer des emplois et donc majorer les entrées fiscales du gouvernement. Dans nos groupes, on tend à convenir que ça peut être peut-être un raisonnement valable pour le secteur manufacturier si on abolit une taxe, ça leur permet d'avoir plus d'argent disponible pour construire des usines, acheter des machines et tout. Mais on ne voit vraiment pas comment ça s'applique pour le secteur des banques. Alors, ne pas décourager l'investissement dans la modernisation d'une usine, OK. Mais le secteur financier fonctionne selon une logique différente. L'argent qui est injecté dans ce secteur-là n'est donc pas récupéré par l'impôt sur le revenu de nouveaux employés ou par le Fonds des services de santé. Et une grande partie du capital des banques provient des intérêts sur nos cartes de crédit et des multiples frais bancaires. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle de notre côté stimuler l'investissement et accroître la productivité. Donc, les investissements des banques ne visent pas vraiment une augmentation de leur productivité ou de leur main-d'œuvre. Ça vise plutôt la maximisation des profits selon les règles financières qui sont en vigueur. Et c'est pourquoi nous, on dit, je pense qu'elles n'ont pas besoin de ce petit coup de pouce-là supplémentaire, d'autant plus que 60 % des profits réalisés au Québec proviennent des institutions financières. Toute entreprise confondue, c'est de là que ça provient. Et pourtant, elles ont le taux d'imposition le plus bas de tous les secteurs d'activité économique. Et, cerise sur le sundae ou outrage final, la moitié des institutions financières ne payent pas d'impôts. La moitié, en recourant à divers abris fiscaux et paradis fiscaux. Et ça, c'est des données, on ne les invente pas, là. c'est des données officielles. Donc là, non seulement elles ont un taux d'imposition bas, elles s'arrangent pour ne pas payer d'impôts, puis en plus, on leur a aboli la taxe sur le capital. Puis juste pour vous rassurer, je pense que vous étiez peut-être inquiets, elles font bien du profit. Il y aurait vraiment matière à aller chercher une bonne taxe sur le capital. Hein, ça va très bien leurs affaires. Donc, voilà le raisonnement derrière notre demande de réinstaurer la taxe sur le capital pour les banques. Si on regarde un peu plus en détail ce qui concerne le taux d'imposition des entreprises, pourquoi est-ce qu'on demande de le mettre à 15 %? Et là, on précise bien, sauf pour les PME, on laisserait le taux actuel pour les PME, on ne toucherait pas, mais on proposerait pour les autres entreprises de le majorer de 11,9 % à 15 %, ce qui permettrait d'aller chercher 1,22 milliard de dollars de plus par année. Ce qu'on allègue, c'est que les entreprises ne sont pas surtaxées ou surimposées au Québec, puis que même en augmentant à 15 % leur taux d'imposition, notre système fiscal resterait compétitif. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est que ça nous permettrait de financer adéquatement nos services publics sans couper dans l'éducation, la santé et autres, financer les transports en commun et tout, et tout, et tout. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles ne sont pas surimposées, les entreprises au Québec? Alors, vous avez le tableau ici, je vous laisse le regarder un peu. Quand on compare Québec, Ontario, Colombie-Britannique, on est pas mal semblable. Quand on regarde le taux, le total, 26,90, 26,50, 26 %, quand on combine l'impôt sur le revenu fédéral et l'impôt provincial. Et regardez les quatre dernières, c'est des États américains qui sont largement au-dessus en ce qui concerne l'impôt sur les entreprises, là, ce qui nous confère vraiment une grande compétitivité. Justement, dans la consultation que vient de tenir le ministre Morneau concernant les fameuses mesures pour boucher les échappatoires fiscales, nous, on a soumis un mémoire dans le cadre de ces consultations-là. Et quand on lisait le document de consultation soumis par le ministère des Finances, on avait des données qui étaient fort intéressantes. Alors, le document de consultation du ministère nous disait qu'en 2017, au Canada, le taux général combiné d'imposition des revenus de société de 26,7 %, bon, là, je ne sais pas pourquoi on a 26,7 %, donc ce qui est le taux moyen, c'est un taux moyen fédéral, provincial, territorial, c'est le deuxième plus faible des pays du G7. Pour les PME, le taux d'imposition des PME canadiennes, c'est le moins élevé des pays du G7. Ensuite, tu as KPMG, qui est une firme mondiale, qui nous indique qu'en 2016, le fardeau fiscal global des entreprises au Canada est le plus faible des pays du G7. Ce qui veut dire que c'est un excellent endroit où KPMG fait ses études-là pour dire aux entreprises où investir, où c'est le plus favorable. Et le Canada est toujours en tête de liste dans les endroits les plus favorables pour investir. Donc, on n'a pas à être trop inquiet pour nos entreprises, puis on a de la marge de manœuvre pour aller chercher un petit peu plus d'imposition. Donc, justement, dans la fiche qu'on a faite sur le sujet, quand on se fait dire « bon, bien, les entreprises vont déménager si on augmente trop l'impôt », bien, quand on regarde les études de KPMG après année, là, c'est pas juste une année, là, KPMG, chaque année, met le Canada en tête de liste pour les endroits les plus favorables où investir, à cause des conditions fiscales notamment. Mais il y a le système de santé, il y a les infrastructures, il y a la paix sociale, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Hein. Et quand on se fait dire les baisses d'impôts, là, c'est bon pour l'économie, les entreprises avec des baisses d'impôts, ils vont réinvestir. En fait, il y a eu des études qui ont été faites parce que le fédéral a baissé beaucoup les impôts dans les dernières années. Quand Harper est arrivé au pouvoir, là, il a fait passer les impôts fédéraux sur les entreprises de 28 % à 15 %. Une baisse majeure. Et là, il y a des gens qui se sont mis à étudier, bon, mais qu'est-ce qui arrivait avec cet argent-là que les entreprises venaient de récupérer, vu qu'elles étaient beaucoup moins imposées qu'avant, hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est ce qu'on vous a mis ici. Ça a été démontré que les baisses d'impôts des entreprises au fédéral n'ont pas stimulé l'économie et l'emploi, parce que ce que les entreprises ont fait, elles ont tout gardé. Suite aux importantes baisses d'impôts, c'est la rondelette somme de 575 milliards de dollars qui dormait en 2011 dans les coffres des 150 plus grandes entreprises non financières du pays. Des liquidités sans précédent, pardon, selon Statistique Canada. Et ça, c'est des études, je peux vous donner les références, c'est vraiment mesuré et tout. Donc cet argent-là, le 575, il aurait pu être dans les coffres du gouvernement pour les services publics. C'était un choix de baisser les impôts des entreprises en disant ils vont stimuler l'économie, ils vont l'investir, ils vont créer de l'emploi, ils vont bâtir des usines. Non. Ici, vous avez le fameux tableau de KPMG sur la fiscalité, la compétitivité fiscale internationale, Canada, France, puis tous les autres. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'attrait. Donc, je vous disais aussi ça, en moins de 15 ans, l'impôt fédéral sur le revenu des entreprises est passé de 28 à 15 %. C'est l'un des plus bas parmi les pays développés à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on pourrait faire comme stratégie au Québec, c'est récupérer des points de taxation abandonnés par le gouvernement fédéral. C'est ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps quand le gouvernement a baissé la TPS. Le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter la TVQ. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. On pourrait très bien dire, bon, ben, on va profiter de ce champ de taxation abandonné par le fédéral pour nous l'augmenter au provincial puis aller chercher les 1,2 milliard dont on fait état dans notre mesure fiscale. Si on regarde un peu plus en détail, lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, un potentiel de 740 millions de dollars de plus dans les coffres de l'État. On est allé faire des estimations d'après les statistiques qui sont disponibles. Donc, il y a Statistique Canada qui nous dit qu'il y a 170 milliards de dollars investis, par exemple, en 2013 dans 12 paradis fiscaux. Ça, c'est l'argent canadien investi dans les paradis fiscaux. 80 milliards de dollars, Tax Justice Network, c'est un groupe du Canada anglais qui travaille sur la question, a évalué à 80 milliards de dollars l'impôt annuel qui échapperait au gouvernement canadien en évasion fiscale de toutes sortes. En faisant des règles de trois et tout, c'est comme ça qu'on est arrivé, nous, à notre 740 millions, en évaluant le poids du Québec dans l'économie canadienne et tout. Mais récemment, il y a des évaluations encore plus élevées qui sont sorties concernant l'évasion fiscale du Québec, plus élevée que 740 millions. Là, on pourrait très bien, en révisant notre document la prochaine fois, augmenter sans honte le montant d'économie possible en luttant plus efficacement contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Alors, actuellement, le gouvernement du Québec, dans chacun de ses budgets, va nous dire « on fait beaucoup pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est fou ce qu'on fait. » Puis quand tu lis les détails dans le budget, c'est mon travail d'analyser les budgets, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il va lutter contre le marché au noir des cigarettes. Il va lutter contre le marché au noir dans les restaurants. Il a mis des petites machines dans chacun des restaurants pour les factures, etc. C'est bien, mais nous, ce qu'on dit à chaque année dans nos communiqués, c'est que vous luttez juste contre les petits poissons. Là. C'est facile encore de faire ça, mais le vrai gros problème, là, les gros poissons, là, eux, ils continuent à nager sans peine. Mais les petits poissons sont tous pris dans les filets, puis ils se démènent avec ça. Puis il n'y a pas grand-chose qui est fait. Le Canada n'arrête pas de conclure des accords fiscaux avec des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Le seul intérêt de ça, c'est pas du tout de faire des affaires et tout. Il n'y a pas à la Barbade, il n'y a aucune entreprise, il n'y a rien du tout. C'est simplement de faire circuler des capitaux libres d'impôts pour les grandes entreprises. C'est tout l'intérêt de conclure ces accords fiscaux-là. Le gouvernement continue à en signer année après année. Il y a Alain Deneau qui a fait un travail extraordinaire sur cette question-là, qui est vraiment très intéressant à écouter. Là, si vous tapez Alain Deneau sur YouTube, vous en avez pour des heures de plaisir parce qu'il est vraiment intéressant à écouter là-dessus. Donc, il y a beaucoup plus qui peut être fait contre les paradis fiscaux. Ça a souvent l'air d'être un sujet loin de nous, sur lequel on n'a pas de prise beaucoup, mais au contraire, quand on commence à fouiller la question, puis encore une fois, Alain Deneau nous a vraiment bien outillés là-dessus, on voit qu'il y a beaucoup qui peut être fait. Puis je fais partie aussi d'une autre coalition qui s'appelle le collectif Échec aux paradis fiscaux, où il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment pour rendre justement la lutte à l'évasion fiscale plus concrète. On a produit un rapport avec un fiscaliste, entre autres, qu'on a déposé au gouvernement provincial et fédéral, où on montre des solutions concrètes. Je pense qu'il y en avait 7. Alors, boucher tel trou dans la loi sur le revenu, annuler tels accords fiscaux, faites ci, faites ça. On a listé 7 mesures très concrètes qui permettraient justement de lutter contre l'évasion fiscale de façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est très possible. Le gouvernement a une prise. Oui, le gouvernement a à s'allier avec d'autres pays concernant certains éléments de concurrence fiscale et tout. Il ne peut pas le faire tout seul, mais il y a beaucoup, beaucoup qui pourrait faire de son côté sans aucune incidence sur sa compétitivité internationale ou sans avoir besoin de tous les autres pays du monde pour bouger. Une petite caricature que j'aime bien là-dessus. Et le Québec peut aussi faire, parce que je vous parle du Canada, mais dans le fond, le Québec peut aussi faire beaucoup. Il y a eu un rapport récent de la Commission des finances publiques sur les paradis fiscaux qui a été déposé en avril 2017. Ils ont fait un excellent travail. Le gouvernement, c'était Raymond Bernier du Parti libéral qui dirigeait ce comité-là, mais c'était multiparti. Et les 38 recommandations qu'ils ont déposées sont très prometteuses. On espère juste qu'ils ne soient pas tablettés. On attend encore le rapport de mise en œuvre qui est annoncé pour cet automne. Puis l'automne commence à filer tout doucement sans qu'on ait aucune nouvelle. Et qu'il y a quand même un risque sérieux que ce rapport-là soit tabletté. Mais il y avait 38 recommandations qui étaient déposées, 27 qui pouvaient être mises en œuvre par Revenu Québec, le ministère des Finances du Québec ou la Caisse de dépôt et placement. Puis il y en avait 11 qui étaient à discuter avec le fédéral pour une mise en œuvre conjointe. Je vous ai imprimé la liste pour vous donner quelques exemples de mesures. Un petit instant. Par exemple, que l'Agence du revenu du Québec estime à partir, je vous en donne juste 3-4 exemples, je ne sais pas pour vous assommer, mais juste pour vous montrer concrètement de quoi ça peut avoir l'air, la lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, que l'Agence du revenu du Québec estime à partir des déclarations pays par pays des entreprises et en collaboration avec le ministère des Finances, les profits réalisés annuellement par les entreprises au Québec et détournés en vue de leur imposition. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les entreprises réalisent des profits au Québec, puis s'arrangent pour les faire passer sur le dos d'une autre juridiction à la Barbade ou ailleurs, ce qui fait qu'elles ne sont pas imposées ici. Puis avec certaines mesures mises en place, on pourrait arriver à dire les profits que vous réalisez au Québec sont imposés au Québec. Là, c'est fini, les petits tours de passe-passe avec les boîtes postales à la Barbade, là, ça, c'est fini. C'est un exemple. Un autre exemple que je vous avais identifié, que le ministère des Finances étudie la possibilité pour le Québec de se soustraire à certaines conventions fiscales canadiennes. Et que le ministère fasse parvenir les résultats de l'étude à la Commission des finances publiques au plus tard en septembre 2017. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus, mais c'était une bonne idée, parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de conventions fiscales que le Canada signe qui sont clairement avec le seul et unique but de faire détourner de l'argent dans les paradis fiscaux pour les grandes entreprises. Il y a le registraire des entreprises du Québec qui pourrait entreprendre le plus rapidement possible, en collaboration avec les ministères, les travaux nécessaires à la mise en place d'un registre central des entreprises du Québec, qui permettrait de remonter aux ultimes bénéficiaires physiques des entreprises. Donc, avoir un nom plutôt qu'un numéro. Okay? Que ça soit facile pour quelqu'un qui aille voir le registraire d'entreprise de savoir à qui appartient une entreprise. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut aller voir sur le registraire puis tomber sur des numéros puis jamais comprendre à qui appartient au final cette entreprise-là puis arriver à l'imposer. Fait que vous voyez, ce n'est pas si extraterrestre comme mesure. Là. Si on avait de la volonté politique, là, ça serait très possible d'arriver à mieux lutter. Je vous en donne une dernière que j'avais identifiée. Que le gouvernement du Québec demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec de réduire progressivement ses investissements dans les entreprises qui font de l'évitement fiscal abusif ou de l'évasion fiscale. Que la Caisse de dépôt et placement du Québec fasse état de cette opération dans son rapport annuel. Pourquoi pas? Qu'il demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec d'exiger des entreprises dans lesquelles ses placements sont significatifs et lui permettent en conséquence d'influer sur leur gouvernance, de cesser d'avoir recours aux paradis fiscaux. Que la Caisse de dépôt élimine de ses fournisseurs ceux qui ont été reconnus coupables de faire de l'évitement fiscal abusif ou de l'évasion fiscale. Pourquoi pas? Fait qu'on attend le rapport de mise en œuvre. N'hésitez pas à en parler à vos députés si vous les rencontrez, parce que pour l'instant, on semble vouloir l'enterrer en vue des prochaines élections. Mais pourtant, c'est intéressant comme rapport. Les médicaments. Alors, la solution fiscale qui consisterait à implanter ou instaurer un régime entièrement public d'assurance médicaments au Québec. Est-ce que vous saviez qu'on paye nos médicaments parmi les plus chers au monde? On les paye vraiment très cher, là, jusqu'à 30 % plus cher que dans la moyenne des pays développés. Ça, c'est quelque chose dont on n'a aucune idée. Et le Québec fait pire que le reste du Canada. C'est au Québec qu'on a les médicaments les plus chers, jusqu'à 38 % plus chers qu'ailleurs au pays. Pourquoi? Avec un régime 100 % public. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, au Québec, on a un régime hybride d'assurance médicaments. Donc, ceux qui travaillent et dont l'employeur fournit un régime d'assurance collective sont obligés d'être couverts avec leur employeur. Donc, ce qui est assurance collective pour l'assurance salaire, invalidité, massothérapie et tout ça, les médicaments sont là-dedans et c'est avec l'employeur. Ça, c'est 57 % de la population du Québec. Les 43 % restants sont couverts avec un régime gouvernemental public. Ce qui fait en sorte que le gouvernement gère 43 % du budget des médicaments. Et ça lui enlève beaucoup de son pouvoir de négociation pour négocier des meilleurs prix. Et quand on regarde l'exemple, ce que ça donne, bien, en Nouvelle-Zélande, où on a un régime d'assurance médicaments entièrement public, un médicament populaire contre le cholestérol coûte 18 sous ou 19 sous le comprimé. Et le même médicament coûte 62 sous, 63 sous le comprimé au Québec. On est très nul pour négocier les médicaments au Québec. On a un très gros problème de contrôle du coût des médicaments, et c'est un sujet que je fouille depuis 2009 en essayant d'alerter les gouvernements et l'opinion publique là-dessus. Et quand on regarde différentes études, par exemple, une étude de Smolina et Steve Morgan de novembre 2014, ils ont estimé que le Québec dépense 35 % de plus que les autres provinces pour ses médicaments. Ça représente 1,5 milliard de dollars en dépenses supplémentaires pour la province. Et quand on continue à décortiquer l'étude, on voit que les chercheurs disent que le vieillissement explique seulement 5 % de cet écart de dépenses avec les autres provinces. Donc, juste 5 % c'est parce qu'il y a un vieillissement de la population. Le reste de ce 35 % ou de ce 1,5 milliard de dollars est dû à un plus grand volume de médicaments achetés par habitant au Québec, des prix plus élevés que dans le reste du Canada, des ordonnances plus courtes et moins de recours aux médicaments génériques. On a vraiment un régime d'assurance médicaments hybride qui est inefficace. Et ça fait, quand on regarde ici, presque tous les pays développés ont des régimes qui couvrent 100 % de la population, sauf le Canada. En fait, dit autrement, le Canada est le seul pays développé, écoutez bien ça, le seul pays développé qui a un système de santé public et qui n'y a pas intégré ses médicaments. Tous les autres pays développés qui ont un système public de santé ont intégré les médicaments là-dedans. Et les résultats sont assez fantastiques comparé à ce que nous on fait. Regardez bien ça. Là, c'est petit les noms de pays, mais vous voyez quand même Québec puis Canada en haut. Puis c'est pas parce qu'on est en haut que youpidou, on est les premiers, là. Ça fait dur, notre affaire, parce que les courbes nous montrent la croissance des coûts par capita en médicaments de 2000 à 2012. Donc, c'est au Canada et encore pire au Québec qu'on a la croissance des coûts la plus élevée. La courbe tend à se stabiliser depuis 2012, là, mais ce n'est vraiment pas la mer à boire. Là. Donc, il y a vraiment une explosion des dépenses en médicaments au Québec. Peu de réactions, des petits projets de loi par-ci par-là du ministre Barrette depuis 2-3 ans, mais rien qui permettrait de penser le bobo de façon efficace. Vraiment, ce qui permettrait, la locomotive qui permettrait de mettre en place tout un train de mesures plus efficaces, c'est un régime entièrement public d'assurance médicaments, comme ça a été fait partout ailleurs, puis qu'on n'a pas encore fait ici, ni à l'échelle de la province, ni à l'échelle du Canada. Mais tranquillement, pas vite, il y a comme un rapport de force ou un mouvement qui s'installe. Au Canada anglais, il y a beaucoup de groupes qui sont actifs aussi sur le sujet. Fait que vous allez risquer d'entendre parler de ça prochainement. À tel point que même les chambres de commerce commencent à se mouiller sur le sujet. Il y a eu la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique qui a déposé un mémoire dans le cadre de travaux que faisait le Comité permanent de la santé à Ottawa. Le mémoire de la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique disait « S'il vous plaît, faites un régime entièrement public d'assurance médicaments, puis faites surtout pas le modèle du Québec. » Parce que là, à l'heure actuelle, les lobbies pharmaceutiques puis les assurances à la grandeur du Canada s'activent à la Chambre des communes à Ottawa pour essayer de convaincre les députés de « bon, ben, si vous êtes pour bouger sur cette question-là, appliquez au moins le modèle du Québec. » Non, non, non. Hein. Très mauvaise idée. Hein. Parce que nous, on fait la part belle aux pharmaciens, aux assureurs puis aux pharmaceutiques. Encore une fois, on est dans une bataille aux ressources inégales là, parce qu'on est face à des gros lobbies fort puissants. Mais un des gros problèmes au Québec, c'est le lobby des pharmaciens. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens parmi vous dans la salle, mais les honoraires des pharmaciens sont un gros problème au Québec. Alors, je ne sais pas si vous saviez, c'est anecdotique, mais c'est quand même important à savoir dans ce dossier-là. Si vous rentrez dans une pharmacie, moi, je suis assurée avec le public, puis mettons, vous êtes assurée avec la SSQ ou une autre compagnie d'assurance, on a la même prescription, on rentre dans la même pharmacie, je vous garantis qu'on ressort avec deux factures différentes. Pourquoi? Parce que les honoraires des pharmaciens sont réglementés pour la portion publique du gouvernement à autour de 9 $ par prescription, mais ne le sont pas pour les gens qui sont assurés au privé. Ce qui veut dire que votre pharmacien peut vous charger ce qu'il veut comme honoraire. Et là, depuis le 15 septembre, sur votre facture de pharmacie, c'est supposé être écrit combien il vous charge d'honoraires. Fait que regardez puis posez des questions, parce que ça peut aller de jusqu'à 80 à 150 % de différence pour les mêmes médicaments, la même prescription. Donc, c'est bon à savoir. Puis c'est quelque chose dont on n'a pas conscience en général. C'est contre-intuitif de penser qu'on peut rentrer dans la même pharmacie avec la même prescription puis sortir avec deux factures différentes. Est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? J'ai oublié une petite diapo. Donc, celle-là, je vous l'ai dit. Pharmacien, je viens de vous l'expliquer. Puis là, si on regarde les factures annuelles, bien, je vous disais on était les pires au Canada, bien là, vous l'avez en chiffres. Et c'est assez frappant de comparer la Nouvelle-Zélande et le Québec, parce que c'est relativement la même taille en termes de population. Et regardez, par personne, la facture annuelle en médicaments par personne, Québec, 1063 $, Nouvelle-Zélande, 340. La facture annuelle par personne. Fait qu'ils font une moyenne de consommation, ils divisent ça par le nombre d'habitants. Puis quand on regarde la Nouvelle-Zélande et le Québec, c'est à peu près la même population. C'est assez frappant comme différence. Quelle heure est-il, ça? Parce que là, j'aurais fini mes trucs détaillés, mais on pourrait peut-être en explorer d'autres si jamais il y a un peu de temps. Il reste combien de temps avant les questions? 5 minutes? OK. Ben, avant les questions, est-ce qu'il y en a une dans les... Je pourrais peut-être remettre le tableau, puis s'il y en a une que vous voulez qu'on explore un peu avant la période de questions, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut... qu'il y en a une qui le titillait puis qui aimerait qu'on en parle un peu plus, ou on passe aux questions, puis vous pourriez... Oui? Il n'y a rien sur les municipalités, parce que nous, notre cible, c'est le gouvernement provincial. Nous, notre objectif, c'est de l'empêcher de couper partout. Puis pour arriver à ça, on entend lui dire, bien, regardez l'argent qu'on a à votre disposition. Là, arrêtez de couper partout. L'argent, il y en a, il est là, prenez-le. Donc, on n'a pas fait de travaux en ce qui concerne la fiscalité municipale. Bienvenue. Oui, je vois.